Bonjour. Voilà, je suis heureux de me retrouver à nouveau au milieu de vous, puisque j'ai eu l'occasion déjà de venir il y a quelque temps, lorsque je suis venu passer quelques jours de vacances. Et donc, on m'avait sollicité d'apporter la parole aux jeunes, et puis, je crois, une réunion un jeudi, je crois. Hein. Donc, j'ai fait connaissance un peu de l'Église, et puis là, ce matin, je suis au milieu de vous, et je suis très heureux de partager ces moments. Je vous transmets les salutations de mon épouse. Elle n'a pas pu venir avec moi. Elle le regrette fortement, non pas qu'elle ne soit pas avec moi, mais qu'elle ne puisse pas voir son petit-fils aussi. Elle a été retenue par des occupations dans l'église, travaillant aussi parmi la chorale. Donc il y a du programme qui est en prévision. Alors elle n'a pas pu se joindre, mais elle vous transmet quand même ses salutations. Et je vous transmets aussi les salutations de l'église de Draguignan, donc, dont je suis le pasteur depuis plusieurs années maintenant. Alors, après avoir entendu les dons spirituels et tout cela, je suis à la fois encouragé de savoir que le Seigneur n'est jamais en retard sur les choses, mais qu'il nous précède toujours. Et c'est toujours rassurant, en effet, pour le prédicateur de savoir que ce qui est dit avant qu'on parle correspond à ce que nous allons dire et partager avec vous ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et puis c'est aussi une responsabilité, parce que je me suis dit, après le don spirituel qui a été donné à la personne concernée, dit « intérêt à être clair, Gérard ». Voilà, donc je vais essayer de l'être par la grâce de Dieu. Et nous allons parler ensemble, sans tarder, je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Si vous voulez venir avec moi dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, j'ai jusqu'à quelle heure? 11h30, c'est ça? 2 heures? Non. Ah, il y a de la réaction. Donc j'ai compris. Voilà. Hébreux, chapitre 12, pardon. On n'était pas loin. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est pesé, ces mots, hein? Pour avoir la vie. Et je pense que les uns et les autres, ce que nous voulons, c'est la vie. La vie. Et rien que la vie, et la vraie vie, amen, celle qui vient de Dieu. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Il y aurait bien évidemment dans tous les versets que nous venons de lire ensemble de quoi méditer et d'avoir des sujets, bien sûr, de méditation, des thèmes concernant les quelques versets que nous avons lus ensemble. Mais ce que j'aimerais bien évidemment souligner avec vous, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est de toute évidence que les versets qui sont juste au-dessus nous prouvent et nous montrent que notre Dieu est un Dieu qui sanctifie. Il est le Dieu qui veut la sanctification. C'est un appel du Seigneur. Il nous appelle à la sanctification. les uns et les autres. Et dans toute la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu a fait que les choses soient ainsi. Dieu sépare les uns des autres. Dieu sépare la nuit du jour. Dieu fait des séparations, non pas pour diviser, mais pour le discernement des choses, pour que nous ayons du discernement, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir où on met les pieds. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir où on va. Et je crois que notre Dieu est le Dieu qui est lumière. Il n'y a rien qui est ténèbre en lui. Et Dieu met en lumière ce qui est caché. Dieu vient avec sa lumière. Jésus a été la véritable lumière. Et quand la lumière vient, ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire, tout simplement. C'est simple, hein? Mais il y a quand même des vérités profondes dans lesquelles nous devons plonger nos regards les uns et les autres pour comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour croire. Que Dieu soit glorifié donc pour le travail qu'il opère en chacun de nous et en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant né de Dieu. En effet, nous avons part, bien sûr, au châtiment, nous avons part à l'éducation du Père qui est dans les cieux et Dieu sait combien c'est important que d'avoir une éducation royale en tant que fils de roi, fille de roi aussi. Et que ainsi nous avons part à la même éducation, que Dieu nous en garde, en effet, de la rejeter, de ne pas l'accepter dans notre vie, car nous nous priverions en effet de posséder la vie dans toute son envergure. Nous ne voulons pas un petit verre d'eau fraîche, nous voulons un torrent d'eau vive. Amen. Nous préférons avoir un flot d'eau vive qui jaillit dans nos corps qu'un petit verre d'eau fraîche. On a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin que le feu de Dieu brûle en moi, que le monde me voit brûler, qu'il brûle ce qui n'est pas à lui pour laisser paraître ce qui est de lui, pour ne dire que de lui et que lui. Alors la sanctification, bien sûr, elle est opérée de différentes manières dans la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'il a été sanctifié pour nous. Il s'est sanctifié, il s'est mis à part. En effet, pour faire ce qu'il a fait, accomplir l'œuvre qu'il a faite sur la croix, il a été l'homme à part, bien qu'il était au milieu des pécheurs. Jamais il a péché, mais néanmoins il s'est préservé, il s'est gardé du monde pour accomplir la volonté de Dieu qui était de mourir à la croix du calvaire. Et il pourra dire effectivement avec vérité, tout est accompli. Et une fois qu'il a accompli la tâche pour laquelle il a été envoyé, nul besoin de rester sur cette terre, il est mort. Il a rendu l'Esprit au Père, l'Esprit que le Père lui avait donné, il l'a rendu au Père. Ainsi, la parole faite chair est retournée d'où elle est venue, là où elle était avant que le monde ne soit, dans la gloire du Père. Après avoir été crucifié, il est ressuscité, et la Bible dit, il est auprès du Père, assis à sa droite, et la droite de Dieu, ce n'est pas rien, c'est une place d'honneur que Dieu donne à son Fils, et c'est aussi une place d'honneur qu'il donne à tous ceux qui croient, à tous ceux qui sont nés de Dieu. Nous sommes honorés du Père, il nous a mis à son côté, en effet à sa droite, et nous appelle à régner les uns et les autres. Jésus donc a été celui qui s'est sanctifié lui-même. Et la Bible dit que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Nous avons été sanctifiés, mis à part pour le service de Dieu, sauvés pour servir en sa gloire. Il n'y a rien de plus honorable que de servir le Maître. C'est pas facile, mais quel honneur Dieu nous fait. Et je pense que tant qu'à faire souffrir pour souffrir, vaut mieux souffrir pour quelque chose qui en vaut la peine. Parce que sur la terre, on souffre, mais vaut mieux souffrir pour la bonne cause. Car toutes les souffrances ici-bas que nous endurons pour la cause de Christ nous permettra aussi d'avoir part à la consolation de Dieu. Et après avoir connu les souffrances d'ici-bas, nous connaîtrons cette joie éternelle dans le ciel avec lui, où Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Que Dieu soit glorifié. Un deuxième moyen, bien évidemment, qui doit être la sanctification de notre part. Et puis il y a la sanctification de l'Esprit, celle que j'aimerais m'arrêter ce matin avec vous. De notre part, dans le sens que Jésus a dit aussi cette parole extraordinaire dans Jean 17, 17. Vous la connaissez ? Jean 17, c'est cette prière d'intercession de Jésus quand il demandera au Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Vous avez votre Bible ce matin? Montrez-la-moi, voir un peu. Voilà, il y a des vides, hein? Non? Peut-être j'aurais dû dire « Montrez-moi ceux qui ne l'ont pas. » Non, je ne vais pas faire ça. Il n'en demeure pas moins que la Bible n'est pas là que pour simplement être portée sous le bras pour dire « voyez-vous, je suis chrétien ». Comme si la Bible faisait de nous simplement le fait de l'avoir un chrétien. Vous savez que moi, être chrétien, c'est pas posséder 10 Bibles de versions différentes dans la bibliothèque, mais ce qui fait de nous des chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui appliquent les vérités de la Bible à leur cœur. Et on va leur dire, parce qu'ils n'auront pas besoin de le dire, ça, c'est des chrétiens. Pourquoi ? Parce que ça se voit. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'ombre. Et on ne peut pas mettre la lampe sous le boisseau. On la met sur la table. On la met en évidence. Donc c'est très important, si elle est la lumière, la lampe à nos pieds, son enseignement est une lumière sur notre sentier, bien évidemment. Et donc la sanctification aussi par l'Esprit, donc ce qui fait de ce thème de la sanctification un sujet très important dans la parole de Dieu, parce que il en va en effet de toute une conséquence derrière. Et comme j'aime à le dire, la sanctification est loin d'être une option, c'est une nécessité. Dans l'Ancien Testament, lorsque Josué va prendre la place de Moïse, il demandera en effet que le peuple se sanctifie. Pourquoi se sanctifier? Mais tout simplement pour dire, ah tu vois, nous on est à part, on est à part. Non, non, tout simplement pour avoir avec soi celui qui nous envoie. Pour que celui qui nous envoie vers les nations, vers les ennemis, en effet nous puissions les vaincre. Mais pas les vaincre parce que on va être plus fort, mais parce que Dieu sera avec nous. Que Dieu nous garde de vouloir vaincre, de combattre sans que Dieu soit avec nous. On sait ce que ça a coûté au peuple d'Israël quand ils ont voulu vaincre. Une ville a été vaincue parce qu'ils ont écouté. La deuxième fois, ils n'ont pas écouté, ils ont été vaincus. Alors moi, ce que je veux, c'est être vainqueur. J'ai été vaincu par Dieu. Et je bénis Dieu parce que, ayant perdu devant Dieu, j'ai tout gagné avec Dieu. Et j'ai appris que quand tu sais perdre, avec Dieu, tu gagnes tout. Mais tout celui qui voudra garder, il perdra et il perdra même ce qu'il croit avoir. Alors j'ai un principe dans ma vie, j'ai rien à moi, j'ai rien donné à Dieu, tout est à lui, donc j'ai rien à défendre, c'est lui qui va défendre sa cause. Comme ça au moins je suis tranquille. Je vis dans le repos de Dieu, dans la foi. Donc la part du Saint-Esprit dans la sanctification, pour ne pas dire en effet que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé simplement pour remplir des hommes et des femmes et dire voilà, nous exerçons la glossolalie, nous parlons en langue, nous exerçons les dons spirituels, mais Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pourquoi ? Pour le ministère, pour le travail, pour le témoignage, pour que nous soyons des lumières dans le monde, le ciel sur la terre. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du ministère du Saint-Esprit. Une église sans l'action du Saint-Esprit est une église qui ira pas bien loin. Et qui ne s'élèvera pas bien en haut. Mais le Saint-Esprit lui est capable de faire des choses extraordinaires. Comme on ne peut pas monter au ciel, ben c'est le ciel qui est venu jusqu'à nous. Jésus est descendu, mais il est remonté vers le ciel. Mais il a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous vous rendez compte? Au monde dans lequel on est, où on a les téléphones super, les internets et tout ça, Dieu avait déjà pourvu par le Saint-Esprit qui est une relation directe entre le ciel et la terre, entre les croyants et Dieu. Et ce qui fait qu'il est véritablement pour nous une personne bénie qui est le Saint-Esprit. Et que Dieu nous préserve aussi de l'attrister, comme disait Paul aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. J'ai besoin, et croyez-moi quand je suis venu et que je savais que j'allais venir, il y a une chose dont j'ai besoin pour porter la parole de Dieu devant vous, c'est que le Saint-Esprit soit avec moi. Parce que si Dieu est avec moi, je suis sûr que je suis du bon côté. Nous avons besoin de la présence de Dieu. L'Église a besoin en tant qu'entité de corps de Christ, représentant en effet de celui qui est dans le ciel. Et qui est au milieu de nous par son esprit, lui étant la tête de l'Église, nous ayant étant le corps, nous avons besoin en effet, et Dieu n'est pas, et Jésus n'est pas désolidarisé de son corps, de son Église. Il est avec elle, il prend soin d'elle, il la lave en la purifiant par l'eau pure de la parole de Dieu, il la prépare comme une fiancée pour les noces, parce que nous on est fiancés, mais bientôt on va être réunis avec lui, on va se réjouir aux noces de l'agneau, et ça c'est extraordinaire, et on aura le plus beau des festins. Que Dieu soit glorifié, la plus grande des fêtes, que Dieu soit béni, le ministère béni du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'avoir son nom dans les registres des assemblées de Dieu, dites en effet de Pentecôte, pour être un pentecôtiste. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je crois que je le citais à la réunion de jeunesse, la dernière fois que je suis venu, je racontais le témoignage de mon fils qui disait ceci, « Papa, ça doit être dur de prêcher. Pourquoi tu me poses cette question ? Tu veux prêcher ? Non, 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 il m'a dit, non, non. » Alors je lui réponds, « Mais Jérémy, non seulement pour prêcher, mais pour être un véritable enfant de Dieu, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as véritablement besoin que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu as besoin, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est nécessaire pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux le baptême du Saint-Esprit, Jérémy ? » Oui, 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 je m'as pleuré. 12 ans, 11 ans, alors qu'il revenait de l'école et j'étais dans le bureau, j'ai dit alors c'est le moment de prier, on va prier ensemble. Et on a prié et il a été baptisé du Saint-Esprit. Et plus que jamais, aujourd'hui, je pense, étant maintenant dans le ministère, il sait très bien, encore plus que pour être dans le ministère, il nous faut aussi, à nous, le baptême dans le Saint-Esprit. Il nous faut être renouvelé, pas dire j'ai été, mais d'être baptisé, constamment renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit, que Dieu soit glorifié. De plus en plus, nous respirons un air qui est pollué. Vous avez remarqué, c'est pollué. L'air est pollué, on a des allergies, on n'en sort plus. Tout est pollué, quoi. Ça devient de plus en plus difficile dans ce monde. C'est de plus en plus mauvais. En effet, il y a une atmosphère dans le monde morale. Et l'esprit lui-même du monde est mauvais. Il est malsain. Nous le savons puisqu'on y était autrefois. Et Dieu nous a rachetés, comme disait le frère, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Dieu nous a sauvés de ce présent monde mauvais. Il l'a dit à son époque. Alors aujourd'hui, alors, nous ne voulons pas être de ceux qui pointent le doigt sur le monde, mais nous voulons garder à nos cœurs pour que le monde n'y rentre pas. Et j'ai aussi besoin que l'huile du Saint-Esprit me remplisse de la plénitude de Dieu pour qu'il n'y ait pas de place pour le monde dans mon cœur. Parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est plein. Mais quand c'est vide, croyez-moi, l'autre, il peut le remplir. Et puis, le meilleur moyen de ne pas donner accès au diable dans nos vies, c'est d'avoir l'huile du Saint-Esprit sur nos vies. Parce que vous avez remarqué, quand vous faites de la lutte, mettez de l'huile, essayez d'attraper votre adversaire quand il est huilé. Ça glisse, la prise est difficile. Combien il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Tu oindules ma tête, Seigneur. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Ça déborde, comme sur la tête d'Aaron, ça déborde sur les vêtements et tout ça. Et qu'ainsi notre vie soit ointe et qu'elle n'offre pas de prise à l'adversaire qui est dans ce monde et à l'esprit pollué dans lequel je vis. Je remarque aussi qu'il y a un vent de folie, d'agitation dans le monde dans lequel je vis. Il y a des angoisses qui se mêlent au progrès. On a des progrès. Mais quelle angoisse, hein ? Plus il y a des progrès, plus on veut le progrès. Et puis le progrès, il crée des soucis, des problèmes et des angoisses. Parce que c'est bien beau d'utiliser le progrès, mais il faut le payer. Et pourquoi, au nom du progrès, on se met bien fois dans des problèmes et dans des difficultés. Bien des angoisses de tout genre aujourd'hui se mêlent au progrès. Un esprit de méchanceté progresse dans le monde. Vous avez remarqué la méchanceté ? Et ces derniers temps, qu'est-ce qu'on entend comme mauvaises nouvelles ? Meurtres, coups de poignard, des jeunes, des moins jeunes, des bandes, des filles, des gars. Il y a en effet un vent de violence, en effet, qui monte de plus en plus. Et je ne pense pas qu'il ira de moins en moins, mais au contraire, de plus en plus. Et nous, on vit dans ce monde-là. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on doit se soustraire au monde dans lequel nous vivons ? Non, la Bible dit que Jésus a prié, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde et de les préserver du malin. Nous ne devons pas nous soustraire, car comment pourrons-nous rendre témoignage ? Comment les hommes seront sauvés ? Si nous on a été sauvés, c'est parce que l'Église a été dans le monde, c'est parce qu'elle a vécu dans le monde, parce qu'elle était là, et elle a porté le témoignage, en effet, de l'amour de Dieu. Nous comprenons pourquoi l'Église, et chacun d'entre nous, donc, nous avons aujourd'hui besoin de reconnaître le ministère du Saint-Esprit comme une nécessité qui doit s'imposer dans notre cœur et dans notre esprit, simplement pour que notre âme n'étouffe pas, qu'elle ne soit pas asphyxiée par le monde dans lequel je vis. Car plus je prête attention au monde, plus le monde a une attraction sur moi et moins je peux vivre pour Dieu. Je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu sers l'un ou tu sers l'autre, mais tu ne peux pas avoir les deux pieds dans un camp différent. Ce n'est pas possible. Alors je crois que pour vous, vous avez décidé, moi aussi, c'est de mettre les deux pieds, en effet, et de servir le Seigneur, comme l'avait dit Josué, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel, que Dieu soit glorifié. Alors nous avons besoin que notre âme n'étouffe pas dans ce monde dans lequel nous vivons, qu'elle vive l'indispensable sanctification qui est nécessaire à notre vie. Il n'y a pas de vie sans la sanctification. J'ai besoin de sanctification. Comprenez bien, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas des orphelins. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance d'investissement qui va venir sur le cœur de l'enfant de Dieu. C'est ce qui va l'aider en effet à être ce que Dieu lui demande d'être. Ce n'est pas d'être ce que le chrétien veut qu'il soit et dire « Toi Dieu, je te plais comme ça ». Non, 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 non. Moi, tu me plais quand tu fais ce que moi je veux que tu fasses. Dieu fera en nous ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Pas ce qui me plaît, parce que si je dois faire ce qui me plaît, je ne fais pas grand-chose. Et je pense qu'on ne servirait même pas le Seigneur. Parce qu'il faut le faire de vivre ensemble, sous le même toit, dans une même église. Il y a tellement de caractères différents et de personnalités différentes. Puis celui-là, hein, il m'est passé devant, il ne m'a pas dit bonjour. Puis t'as vu, il a piqué ma place, il a pris ma place. C'est ma place. Enfin bon, bref, il y aurait tellement à dire. Ah, puis ils sont jeunes, ces jeunes, ils nous dérangent. Hein. Et puis les jeunes, ils vont dire, ah, puis eux, ils sont âgés, on ne peut pas faire. Hein. C'est pas facile que d'harmoniser des jeunes et des moins jeunes. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas, c'est un sacré défi quand même que Dieu s'est lancé, non? De réunir dans un même lieu, comme disait aussi le frère, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, je ne sais pas, tout ce qu'il y a sur la terre. En effet, des hommes et des femmes de caractères différents, avec des arrière-plans différents, en effet, avec des éducations différentes. C'est dur que de vivre ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que c'est facile la vie d'église? Ah, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible. Et n'est-il pas écrit que tout est possible à celui qui croit? Vous croyez? Alors c'est possible. Que Dieu soit glorifié. Alors quand Jésus était sur la terre, ceux qui voulaient lui parler devaient se rendre bien sûr où il était, vous le savez. Il s'est limité dans un corps d'homme, bien que la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais aujourd'hui et depuis bien sûr la Pentecôte, le Saint-Esprit nous permet bien sûr d'établir une communion avec lui. Paul Fini, une de ses épîtres, disait qu'il désirait que nous ayons la communion avec le Père, la communion avec le Fils, la connaissance de l'amour. En effet, puis la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des choses à communiquer, mais des choses d'en haut. Il veut les faire communiquer au peuple de Dieu. Vous vous rendez compte que le monde se gargarise des nouvelles du monde, mais nous, on a les nouvelles du monde plus les nouvelles du ciel. C'est extraordinaire, ça, non? Vous avez trouvé une imprimerie comme ça? Un journal comme ça? Non? Nous, on a la Bible. Et on a l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses, que Dieu soit glorifié, et il fait des choses bien plus supérieures, bien plus grandes encore, qui nous étonnent. Alors, ce ministère de communication ayant été rappelé, en effet, par la parole de Dieu, nous ne devons pas oublier qu'en Christ, en effet, et par le Saint-Esprit se trouve la parole de la vie et de la vie éternelle, une puissance de vie qui est régénératrice pour nos vies. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est lorsque le jour où la parole de Dieu a été prêchée, nous avons été touchés dans notre cœur et quelque chose s'est passé. Et au lieu d'être dans la dégénération ou dans la dégénérescence, nous avons été régénérés en effet par l'action puissante de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Nous allions tout droit vers une déformation totale, en effet vers l'avilissement, vers l'asservissement. Mais Dieu nous a délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a relevés du péché qui nous avait couchés dans la mort. Le Saint-Esprit est venu, il nous a ressuscités d'entre les morts. Nous sommes debout dans notre cœur, debout dans notre corps, debout sur nos jambes pour servir le Seigneur et assis dans le salut que Dieu nous a donné. Que Dieu soit glorifié. Amen. En effet, disons qu'il y a trois choses que j'aimerais mettre en évidence pour ne pas être trop long. Trois choses, en effet, qui se manifestent dans la parole de Dieu concernant la sanctification du Saint-Esprit. J'aurais pu prendre aussi un thème, un autre texte dans la parole de Dieu. On l'a lu hier soir avec les jeunes, en effet, c'est Jérémie. Jérémie, ce prophète qui a été appelé de Dieu, un jeune, ah, le jeune, le pauvre, il dit pas, moi je vais manger le monde, moi je vais tous les avoir, mais ce jeune Jérémie dit, moi je suis qu'un enfant, je suis qu'un adolescent, je suis un jeune, j'ai pas d'expérience, j'ai pas la capacité devant l'envergure du travail, prophète des nations, moi. Il dit, ne dis pas, je suis un jeune, ne dis pas, je suis un adolescent, ne dis pas ça. Parce que c'est pas toi qui va faire, c'est moi qui va faire au travers de toi. Je ne te demande de rien faire, je te demande de faire ce que je te dis. C'est tout ce que Dieu nous demande. D'être des hommes qui sont à l'écoute comme d'un disciple, d'avoir une oreille de disciple, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ou dit aux disciples, et de faire ce qu'il dit. Le reste, c'est lui qui va le faire. Parce que Dieu ne demandera jamais de faire ce qu'on ne peut pas faire. Il faut être logique. Mais ce que moi je ne peux pas faire, il le fera lui. Mais par contre, ce que je peux faire, il me dit, fais-le. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, un premier point, une action destructive. Quand on relit Jérémie, il dit, tu vas détruire, abattre, démolir avant de construire et de planter. À 4 reprises sur 2, en effet, on voit que le Seigneur insiste sur le fait que tu vas détruire, tu vas abattre, tu vas démolir, et puis les deux autres sont simplement pour bâtir, planter, et ceci. Il y a comme une insistance. Il y a dans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, il y a quelque chose, il vient détruire des choses. Il vient détruire le Saint-Esprit. Il y a des choses à détruire dans notre vie. Il y a des mauvaises pensées à détruire, il y a des mauvaises habitudes à détruire. Vous croyez pas ? Il y a des raisonnements à détruire qui sont parfois comme des forteresses dans lesquelles on est enfermé. Tiens, ça me fait penser à un témoignage d'une sœur, en effet, qui était dans une ville dans laquelle j'étais pasteur, et elle me disait, moi, je ne peux pas prier tant que je ne suis pas à genoux. Ah bon ? Elle dit, non, moi, il faut prier, il faut que je sois à genoux. Ah. Et on leur faisait cela comme si c'était une loi, comme si, en effet, Dieu, on ne pouvait pas le prier hors qu'à genoux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on peut prier qu'à genoux ? Non, moi je peux prier allongé, je peux prier debout, je peux prier en travaillant, je peux parler à Dieu. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Alors cette femme, cette sœur, elle a insisté. Je lui ai dit, mes sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Comment vous allez faire le jour où vous aurez de l'arthrose dans les genoux ? Vous allez comment faire quand vous aurez des genoux malades qui seront comme certains, ne pouvant pas se mettre à genoux ? Comment vous allez dire, par exemple, à un carreleur qui a travaillé toute sa vie sans les protections dans les genoux et que les genoux sont... Il ne peut plus s'asseoir, il ne peut plus se mettre sur ses genoux. On va faire comment ? Ah, vous allez me dire, il va prendre un coussin. Oui, ça peut être ça, mais quand on ne peut pas. Alors, ne mettez pas des cloisons. Il ne faut pas ériger des forteresses dans lesquelles parfois on s'enferme. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, tu peux être au fond des mers, tu peux monter sur les montagnes. C'est vrai qu'il faut remonter ou il faut redescendre. Mais néanmoins, Dieu est esprit. Il n'y a pas de lieu particulier dans lequel nous devons... Donc la Bible nous exhorte de cette façon. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3. Verset 5. Faites donc mourir. Il ne dit pas je vais faire mourir. Il dit à nous, à chacun d'entre nous, faites donc mourir ce qui dans vos membres, ce qui est terrestre, l'impudicité, les mauvaises pensées, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités, en effet, qui sont là, qui sont comme une idolâtrie, parce que c'est la même chose finalement. Parce que tout ce qui passe au-dessus de Dieu, c'est une idole. Et parfois l'idole, c'est moi. Elle n'est pas si loin que ça, l'idole, hein. Je me prends moi pour plus que Dieu. Mais on n'est pas plus que Dieu, nous. Hein. Attention, parce que les idoles, touc, elles tombent les idoles. Parce que Dieu, vous savez que c'est un Dieu jaloux. Son nom est jaloux et il ne prête pas sa gloire à un autre. Hein. Et il ne la donne pas à un autre. Faites donc mourir ceux qui souillent, ceux qui divisent la personnalité. Il y a là, en fait, un devoir de destruction dans notre vie. Aucun d'entre nous ne peut le faire, ni ne les négliger. Comment citer et comment s'y prendre ? Comment accomplir cette tâche d'élimination, d'enlever ? J'ai pourtant essayé maintes et maintes fois, j'y suis pas arrivé. J'ai essayé, j'ai tenu, je suis retombé. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné parce qu'il, lui, va faire une œuvre de destruction de ce côté-là. Parce que l'Esprit est chargé de convaincre nos cœurs. Parce que si je ne suis pas convaincu que la chose est mauvaise, je ne m'en séparerai pas. J'ai besoin d'une conviction dans mon cœur, de comprendre avec mon intelligence que ce que je fais est mauvais. J'ai besoin de comprendre que c'est néfaste, que ça ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas faire les choses, je ne suis pas un béni, oui. Je ne dis pas amen parce qu'il a dit qu'il faut faire comme ça. J'ai besoin de conviction intérieure. Et le Saint-Esprit me convainc pour me faire comprendre. Ce n'est pas par nos forces, donc c'est par l'Esprit du Seigneur. Romains 8, 13, il nous est dit, il dira que le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit, en effet, il faut faire mourir donc ce qui doit être éliminé. Pourquoi ? Pour vivre, pour que tu puisses vivre la vie chrétienne. Et des fois, on est bloqué parce qu'il y a des choses mauvaises et on ne peut pas servir Dieu parce qu'il y a des choses mauvaises. Ça doit être détruit. Et le Saint-Esprit vient nous aider pour le faire. C'est de cette manière que le Saint-Esprit fait. Vous avez peut-être, quelqu'un au milieu de nous a eu un cancer. Et on sait que ceux qui ont eu avoir à faire des séances de chimio, il y a ces rayons que l'on fait, en effet, pour détruire les cellules cancéreuses. Malheureusement, on sait que parfois, ça détruit aussi les bonnes cellules. Mais il faut un certain temps s'exposer aux rayons pour détruire, en effet, les cellules cancéreuses. De la même manière, pour détruire ce qui est mauvais dans nos vies, il faut que nous passions un certain temps devant Dieu et sous l'action du Saint-Esprit. Il faut qu'on prenne du temps devant Dieu pour laisser au Saint-Esprit d'œuvrer et de détruire ce qui est mauvais dans notre vie, dans notre cœur. Il y a aussi autrefois ces fameux tramways qu'il y avait autrefois, qui avaient un moteur en bas, vous savez, une espèce de toupie, et ils étaient alimentés par des lignes de haute tension, et quand ils étaient à l'arrêt, on déployait des je ne sais plus comment on appelle ça, là. Caténaires, voilà. Pour qu'ils touchent en effet la ligne de haute tension, et ça alimentait bien sûr cette roue, et on rechargeait la batterie. Et puis une fois qu'elle était rechargée, on rabaissait les cathéters, et puis on faisait les choses. Mais il fallait s'arrêter à la prochaine station, hein ? Non ? Parce que si vous ne vous arrêtez pas à la prochaine station pour recharger les batteries, entre deux stations, ping, c'est la panne. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, mais que vous ayez toujours en effet de quoi continuer, même quand quelquefois tu prends des coups, même quand quelquefois tu n'es pas compris dans l'Église, même quand quelquefois il semblerait qu'il y a des injustices, il ne faut pas que tu te lasses. Et pour ne pas te lasser, tu as besoin de l'action du Saint-Esprit pour recharger tes batteries, pour ne pas laisser la déception gagner ta vie et te faire partir ou là où Dieu t'avait placé, mais de rester devant le Seigneur. Une deuxième action. La Bible parlera en effet dans la parole de Dieu qu'il y a une action créatrice. Et bien sûr, on se souvient que lors de la création, dans le livre de la Genèse, il y avait Dieu qui va dire les choses, il y avait la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, il planait. Il était en pleine harmonie en effet avec l'œuvre de Dieu et c'était l'œuvre de la création. La création était comme couvée, il y avait le tohu-pohu, c'était le méli-mélo, il n'y avait aucun discernement. Les choses étaient un peu bizarres, on ne discernait rien. Et puis quand Dieu va intervenir par le pouvoir de sa parole, en effet, et l'action de l'Esprit, en effet, il va y avoir quelque chose de ce méli-mélo, de ces choses qui sont non discernables. Dieu va faire sortir une création extraordinaire. Et l'action du Saint-Esprit est capable de créer des choses qui n'existaient pas. Dieu est capable de faire naître des fruits qui n'existaient pas. Oui ou non ? Connaissez Galates 5, 22 ? Non ? Si ? On le connaît, hein ? Ben après, il faut le mettre en exécution. Alors on a besoin en effet de cette œuvre. Si le Saint-Esprit peut détruire ce qui est mauvais, il peut aussi, à plus forte raison bien sûr, nous communiquer toutes les grâces qui nous sont nécessaires, en effet indispensables, qui nous manquent pour vivre la vie du chrétien. Dans le livre de la Genèse, comme je l'ai dit, donc l'action du Saint-Esprit est là, elle se fait que Dieu soit glorifié. L'Esprit se mouvait, en effet, il couvait, il était là, à la surface des eaux, et le Saint-Esprit peut créer en nous si nous le laissons faire. Un jour, une femme de serviteur rendait ce témoignage. Autrefois, elle était professeure d'école et elle avait des petits-enfants. Et quand vous êtes à l'école et que vous gardez des enfants, s'ils sont 36, vous avez 36 chandelles, hein. C'est difficile. Alors elle disait toujours, j'en peux plus, j'arrive pas à garder mon contrôle, j'arrive pas à me maîtriser. À chaque fois, je dis, je vais être calme, je vais être patient. Et puis dès que quand elle était en face des réalités, bouh, elle explosait. Seigneur, viens me secourir jusqu'au jour où Dieu lui dit, va voir ton canari. Dans la cuisine, ah, mon canari, ça va pas là. Elle se ressemble ses idées. Elle prie, va voir ton canari. Elle y va le voir et puis elle regarde son canari. Puis elle remarque qu'il y avait la mer qui couvait. Et Saint-Esprit lui dit, tu vois, au lieu de vouloir faire par tes propres efforts, tu n'y arrives pas. Il dit, laisse-toi couver par le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire naître les fruits. Et je pense que c'est bien, hein. Parce que quand Dieu fait naître des choses dans nos vies, c'est extraordinaire, c'est inégalable. D'ailleurs, on ne peut pas les imiter, ce n'est pas possible. Ce que Dieu fait est incomparable, que Dieu soit glorifié. Et puis mon troisième point, une action énergétique. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit fait de nous des... Non, non, il faut cette promptitude, cette énergie nécessaire. Il faut beaucoup d'énergie pour l'œuvre de Dieu. Hein? Une action énergétique, j'ai dit, en troisième point. Ça va? Voilà. C'est une manifestation du ministère du Saint-Esprit, de sanctification du Saint-Esprit, celui qui nous sépare en effet de la paresse spirituelle, celui en effet qui nous débarrasse de l'immobilisme, de nous enraciner dans des choses qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Et au lieu de s'enraciner dans l'œuvre de Dieu, on s'enracine dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide en effet. Il vient nous donner une énergie en effet pour nous déraciner des choses dans lesquelles on était pour être à faire l'œuvre de Dieu. Pour pouvoir aller et venir et faire l'œuvre du Seigneur, séparé de la paresse spirituelle, de l'immobilisme dangereux, car celui qui n'avance pas finit un jour par tomber et reculer. Qui n'avance pas recule, qui stagne tombe. On a besoin en effet du renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 3:16 nous dit que nous pouvons être puissamment fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit, que Dieu soit glorifié. Alors, rechargeons nos batteries. Passons du temps. Je pense à Daniel qui passait 3 fois par jour du temps devant Dieu. Il priait. Combien l'Église a besoin en effet que ses membres se réunissent pour prier, pour intercéder. Je pense en effet que la prière n'est pas une réunion moins importante que la réunion d'édification et d'évangélisation. Toutes les réunions sont nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'on a un appel. On a une vocation, on a un service, et toutes ces réunions sont nécessaires. C'est pourquoi les actes des apôtres sont là pour nous rappeler qu'il nous faut toujours persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et dans les actions de grâce. On a tous besoin de persévérer, en effet, dans les prières. Mon frère, ma sœur, ne méprise pas la prière, car mépriser la prière, c'est mépriser l'œuvre de Dieu, et ne pas s'attarder dans la prière, c'est mépriser ton âme. Parce que ton âme a besoin d'être renouvelée. Tu as besoin de te fortifier. Prenons du temps, rachetons le temps, disait Colossiens 4:5. Offrons-nous du temps pour nous placer sous le ministère efficace du Saint-Esprit. Il n'y a pas de méthode rapide, il n'y a pas de contournement. Il y a une voie royale qui nous a été tracée. Et si Dieu nous a donné ce chemin-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un. Et celui-ci, nous devons l'emprunter les uns et les autres. Alors que Dieu nous aide, voilà frères et sœurs, c'est avec simplicité, la montre tourne, et je ne voudrais pas lasser votre patience. Si un jour je reviens, je veux vous revoir. Que Dieu nous aide, que l'esprit malin qui est dans ce monde puisse trouver en nous quelque chose, l'esprit du Seigneur qui va pouvoir en effet s'opposer à l'esprit du mal, à l'esprit de folie qu'il y a dans le monde, à l'esprit de méchanceté, de jouissance, des choses de ce monde. On ne peut s'opposer qu'un seul remède, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et je veux rappeler une chose, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Et encore une fois, je préfère avoir une église sans musique, sans chanteur, sans choriste, sans rien du tout, mais des instruments spirituels que sont des croyants. Je ne méprise pas la musique, attention, hein. Parce que les musiciens, il faut qu'aussi il y ait l'onction, parce que pour être musicien dans une église, il faut l'onction. Tout comme il faut l'onction pour être sonoriste, parce que c'est trop fort, c'est pas assez fort, on entend mal, on entend bien, et quand celui-là qui est derrière, il entend tout ça, il dit « j'en peux plus ». Il faut l'onction. Dans tout service de Dieu, il nous faut l'onction. On a besoin du Saint-Esprit. On se recueille un court instant, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Seigneur, je me réjouis d'avoir passé ce temps avec mes frères et mes sœurs. Encore merci d'avoir entendu la voix de ton esprit, avoir entendu ces dons spirituels nous exhortant à prendre conscience du vœu que nous t'avons fait, de l'engagement que nous avons proclamé. Seigneur, lorsque nous avons confessé ton nom, nous avons accepté de passer par les eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie avec toi. Nous t'avons donné nos vies, que nous ne soyons pas nous les voleurs du temps qu'on te doit. La vie, nous te l'avons donnée, elle n'est plus à nous. Ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons, Seigneur. Que tu ne trouves pas dans nos vies de la résistance, que notre volonté ne s'oppose pas à la tienne. Que Seigneur, nous privons ainsi de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu. Bénis cette église, bénis l'église dans le monde entier. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons nous rappeler ces vieux cantiques qui disaient « Envoie la puissance sur ton peuple, envoie la puissance d'autrefois, baptise du Saint-Esprit, purifie-nous. Oh Seigneur, viens faire ton œuvre, sanctifie-nous par ton Esprit, Seigneur, et donne-nous la docilité, donne-nous d'être maniables dans tes mains, donne-nous d'être l'argile qui se laisse façonner par toi, afin que nous remplir tout à nouveau du Saint-Esprit. Seigneur, on n'est que des vases de terre, mais tu veux bien mettre ta puissance dans nos vies, afin que cette puissance ne soit pas attribuée aux hommes, mais à toi qui opères en nous par le Saint-Esprit. Père, merci pour toutes choses, et à toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.